On poursuit cette émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1, ton rendez-vous d'actualité de midi à 14h à chaque jour. On va suivre le retour de Denis Gravel, Marceau du soir avec Marc Bellemare. Et à 19h, c'est le nouveau podcast, la nouvelle série de podcasts de Denis Gravel sur les grands événements de Québec. C'est un podcast percutant et riche qui aborde les plus grands événements marquants de la ville de Québec. Et pour ce soir, à 19h, c'est la diffusion de l'épisode La tuerie d'Halloween avec Denis Gravel et Steve Jolicoeur. On s'en souvient tous, résidents de Québec, le 31 octobre 2020, une nuit funeste où deux personnes ont été tuées, plusieurs personnes ont été blessées par un homme déguisé en samouraï armé d'un sabre qui a semé la terreur dans le secteur du château Frontenac. C'est d'actualité en plus parce que cet homme-là va avoir le droit à un deuxième procès. Et c'est le photographe Steve Jolicoeur qui nous amène aux premières loges du drame, où il est passé d'une scène de crime à l'autre pour se retrouver en position de prendre les seules photos de l'arrestation du suspect. C'est à ne pas manquer, 19h ce soir. Le podcast des grands événements est présenté par Climatisation Paquette pour la vente de produits Mover, la marque la plus fiable selon Protégez-vous, installée par une équipe de techniciens d'expérience. C'est climatisationpaquette.com. Pascal, avant de parler à Luc Laliberté, il y a du nouveau dans l'affaire Jeffrey Epstein.
Oui, je ne sais pas si tu savais qu'il y avait une poursuite de Trump contre le Wall Street Journal. Mais ça a été refusé. Donc, on a rejeté cette poursuite-là dans l'affaire Epstein, effectivement. Donc, ça vient tout juste de sortir il y a 2 minutes. C'est un article qui faisait état d'une lettre assez salace, là, de vœux d'anniversaire qui était écrite à Jeffrey Epstein et qui portait la signature de Donald Trump. Donc, il y a un juge de district fédéral du côté de la Floride qui a conclu que Donald Trump n'avait pas démontré de façon plausible que le journal avait agi dans l'intention de nuire versus faire une nouvelle. Et c'était ça un peu le litige entre les deux. Donc, on refuse cette poursuite de Donald Trump.
Et également, bien, en Iran, ça bouge énormément, blocus par les Américains aujourd'hui.
Oui, et dans les dernières minutes, bien, Donald Trump était en point de presse. On était en direct du côté de la Maison-Blanche. Une nouvelle mesure des États-Unis contre l'Iran qui est effective depuis 10 heures ce matin. C'est un blocus, en fait, qui a été mis en place pour paralyser le trafic qui entre dans les ports et les zones côtières iraniennes et qui sort. Blocus qui est décrit comme un acte de piraterie par l'Iran. Ça découle de l'échec des négociations entre Téhéran et Washington et ça fait monter la tension. Faut le dire, les gardiens de la Révolution ont dit, ben OK, donc, alors tout bâtiment de guerre qui pourrait s'approcher du détroit d'Ormuz dans ce cas-ci, ce sera considéré comme une menace au cessez-le-feu qui devait avoir lieu jusqu'au 22 avril. Et ce bâtiment de guerre, on parle de navire, mais quoi que ce soit finalement, va faire face à une réplique sévère. Le feu est encore pogné au Moyen-Orient.
Ah, vraiment. Et pour en parler avec nous, on a Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et également gestionnaire et surtout producteur des capsules La Liberté en clair. Luc, comment vas-tu?
Particulièrement bien, même si hier soir, ben écoute, je suis de mon temps, après avoir couché les enfants, souhaitant voir et revoir le 100e point de Nick Suzuki, on m'a plutôt proposé une photo de Donald Trump en Jésus. Donc, ça ne cesse jamais. Ah. Ben, c'est infernal. Donc, hier, les auditeurs, auditrices ont peut-être vu ça aussi. Donc, Donald Trump qui veillait sur les Américains, mais clairement identifié au personnage de Jésus, alors qu'il est en conflit ouvert avec qui? Il manque d'adversaires, semble-t-il. Le pape Léon. Donc,
ben oui.
Nous en sommes là aujourd'hui.
Pourquoi pas s'en prendre à la Sainte Trinité? Hey Luc, avant de parler justement de ce conflit-là en Iran, je vais avoir ta réaction à chaud sur la décision justement de la Cour de ne pas aller de l'avant avec la poursuite pour le Wall Street Journal. Honnêtement, c'est une bonne nouvelle pour la liberté d'expression et la liberté de presse.
C'est surtout une bonne nouvelle qui se répète. C'est-à-dire que, et c'est une chose que j'ai mentionnée à de nombreuses occasions depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est qu'il est entré dans des bras de fer avec plein d'institutions. Il l'a fait avec des universités, il l'a fait avec des médias, mais l'idée, c'est de toujours faire planer la menace. On a vu du côté des universités américaines qu'il y en a qui ont les moyens de se défendre, comme Harvard. Mm-hmm. Et quand Harvard s'est défendu, Harvard a gagné contre l'administration Trump. D'autres universités ont plié parce que ça coûtait moins cher, finalement, de s'entendre avec Trump que d'aller combattre devant les tribunaux. Et pour les médias, c'est un peu la même chose. Il y a des médias qui ont plié devant Trump. CBS, par exemple, en est un de ces médias. Disney, pendant un temps, a plié aussi avant de trouver une voie de contournement. Et Donald Trump s'en est pris à des journaux, dont le Wall Street Journal, qui en passant, parce qu'il y en a qui se disent « Ah, c'est encore les médias progressistes ou libéraux contre hein, une administration conservatrice ou républicaine », il va falloir se lever de bonne heure pour me convaincre que le Wall Street Journal est un journal de gauche ou un journal « woke », comme on l'utilise parfois dans le jargon. Mais ce que ça souligne, c'est que ce n'est que de l'intimidation. Ça fait plusieurs fois que Donald Trump, devant les tribunaux, on ne se rend même pas au procès. C'est rejeté parce que les accusations sont sans fondement ou sans valeur au plan de l'argumentaire. Donc, tout ça pour conclure par une réponse simple à ta question. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais retenez que quand on résiste à Donald Trump, chaque fois qu'il fait de l'intimidation, ça a l'air facile, mais c'est souvent très coûteux. Chaque fois qu'on se tient debout pour ses droits, on gagne. Donc, victoire pour le Wall Street Journal, mais oui aussi pour la liberté de presse et la liberté d'expression.
On se propulse en Iran. Bon, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz à la suite des attaques du 28 février. Depuis ce temps-là, on a un prix à la pompe qui augmente sans cesse. L'économie ne va pas bien. Ça va se répercuter sur le prix des aliments. Et là, tiens, comme par magie, Donald Trump a la bonne idée de continuer à fermer le détroit d'Ormuz puis d'empêcher l'Iran de faire du commerce via ses ports.
Alors, on en est à ce jeu avec qui bloquera qui. Donc, on a eu un échec des négociations durant la fin de semaine. Les pourparlers continuent. De chaque côté, ce qu'on dit, c'est ce n'est pas la fin. Mais on sent très bien que chacun y va avec ses leviers. Hein, on fait jouer ses gros arguments pour tenter d'arracher des concessions à la partie adverse. L'Iran sait qu'elle a son principal argument, ou sa principale force, c'est le détroit d'Ormuz. Et l'Iran, le pays est partiellement détruit, il y a des infrastructures qui ont été défaites, le régime a été malmené, on l'a, pardon pour l'expression, décapité, mais il y a plusieurs meneurs qui ont littéralement été éliminés. Mais si on accule un pays au pied du mur, ou si on le met en situation de désespoir, ce pays-là va s'accrocher à ce qui lui reste, et son principal argumentaire ou levier, c'est le détroit d'Ormuz. Donald Trump fait quoi? Lui, ce qu'il souhaite dans ce cas-ci, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options gagnantes et encore moins à court terme. C'est-à-dire que les Américains vont perdre quelque chose. Il s'agit de voir ce qu'on va perdre, l'ampleur, mais si on gagne militairement, ça fait très mal ailleurs, entre autres, tu viens de le mentionner, Jean-François, dans les poches des Américains. Donc, la réponse américaine, et c'est comme ça qu'il faut le voir, on a dit, et Pascal le mentionnait en manchette, on va mettre des navires, ça en prend une dizaine ou une douzaine, séparés tout le long de la côte iranienne. Et j'écoutais l'ancien général Wesley Clark très bien expliquer la stratégie ce matin en disant « on est capable de faire ça ». On aurait aimé que l'OTAN nous vienne en aide, il se fait le porte-parole de Donald Trump un peu, il dit « on aurait aimé ça avoir de l'aide, mais on a tout ce qu'il faut en termes de navires, en termes d'équipement, puis en termes de soldats ou de marines pour faire ce travail-là ». Par contre, ce qu'il dit moins, ou ce sur quoi on insiste moins, c'est qu'il y a des risques potentiels aussi, des risques d'escalade, bien entendu, mais des risques pour les navires qu'on expose comme ça à des tirs iraniens. Mais on est capable, mais tu devines que ce n'est pas à court terme, d'empêcher le ravitaillement ou certaines communications par les voies maritimes pour l'Iran. Donc, c'est plus que le détroit d'Ormuz. On empêche les Iraniens parce qu'ils pouvaient d'ailleurs acheminer du pétrole autrement, eux, que par le détroit d'Ormuz. Mais là, on les empêche de faire ça. Le régime iranien, il l'a montré, et ce n'est pas un appui au gouvernement iranien, il faut être clair, mais il a montré qu'il est résilient. Si on n'a plus rien à perdre, on va vous traîner, puis c'est à l'usure qu'on va vous avoir. Et là, je reviens, est-ce que Donald Trump est prêt à très court terme à sacrifier beaucoup? Est-ce que la pression dans la région pour les pays du Golfe, et il y a un grand nombre de choses pour nous dont le prix augmente en raison de la fermeture du détroit, mais c'est encore pire pour les pays de la région. Et ça commence à peser plus lourdement sur la Chine. Mm-hmm. On est dans un régime autoritaire, on peut se permettre d'attendre, mais la Chine, elle est déjà à l'œuvre. Elle n'est pas que spectatrice ou inactive. Il faudra voir, si ça dure encore longtemps, ce qu'elle va poser éventuellement comme geste. Mais donc, voyons ça à court terme. S'il y a quelque chose de positif, on se parle encore. Si je suis un Américain, je suis un stratège américain ou républicain à la Maison-Blanche, comment je sors de là? Avec quel coût et avec quel risque? Et c'est là où on se trouve un peu empêtré, alors que les Américains se rappellent qu'en Afghanistan, ça a été long, ça a été chaotique à la sortie. En Irak, on en a eu long à dire, puis bien sûr, il y a toujours le fantôme du Vietnam hein, qui plane sur chaque aventure à l'étranger comme ça. Je récupère aventure parce que c'était l'expression de Donald Trump. On est allé pour une petite aventure en Irak.
L'aventure ça s'éternise à l'aventure?
Il fallait être particulièrement aventureux, semble-t-il, pour y aller.
Mais c'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, on se demande pour comment ils vont faire s'ils sont même pas capables de respecter un semi-cessez-le-feu qui était supposé être en place jusqu'au 22 avril pour des négociations. Quand aussitôt que ça fonctionne pas ou chacun de leur côté, ils ont pas ce qu'ils veulent, ils répliquent ou ils amènent une force militaire de plus. Le pain économique est très, très, très difficile pour tout le monde. À un moment donné, il y a d'autres acteurs qui risquent d'entrer en ligne de jeu.
Bien, Pascal, c'est que la question qu'on a tous, je pense, parfois on se la pose clairement, parfois elle vient après réflexion, mais c'est est-ce que nous sommes mieux, est-ce que les Américains au premier chef sont mieux depuis l'attaque en Iran? Et il y a un argument que l'administration Trump peut sortir, mettre sur la table et dire, bien, la puissance militaire iranienne, elle est beaucoup plus faible qu'avant qu'on entre. Et ça, c'est vrai. Mais quand on regarde l'ensemble des coûts, quand on regarde l'ensemble de la stratégie, est-ce que les Américains et le reste de la planète sont mieux? Est-ce que c'est plus stable? Ceux qui prenaient la défense du peuple iranien, et j'en suis, c'est un régime autoritaire épouvantablement brutal. Est-ce que le peuple iranien en Iran aujourd'hui est mieux au moment où on se parle? C'est très difficile de répondre oui aux dernières questions que je viens de lancer en rafale comme ça.
En effet, et en terminant, Luc Laliberté, pendant ce temps, les démocrates font le plein de partisans parce que je lisais pas plus tard que ce matin que c'est 13% qu'ils ont gagné dans des comtés où il y a eu de nouvelles élections, et ça depuis justement la bataille Trump et Kamala Harris.
Il y a deux choses très importantes à retenir pour les démocrates, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est qu'à court terme, effectivement, tu viens de le mentionner, puis je valide, ce n'est pas que l'information de ce matin, les démocrates sont sur une belle lancée. Il y a de plus en plus de gens qui votent pour eux, et même dans des fiefs républicains ou même MAGA, parfois on a des résultats qui sont étonnants là où on n'attendait pas les démocrates.
C'est dans l'ancien comté de Marjorie Taylor Greene que le démocrate a gagné quoi, 25 ou 26 % par rapport à la dernière élection?
Plus de 25 % d'amélioration dans un... Parce qu'on dit souvent, hein, les États républicains, ils sont rouges. Celui-là, il est rouge vin ou rouge foncé. C'est absolument pas normal qu'un candidat aille chercher 44 ou 45 % du vote. Là, c'est à peu près ce qu'a eu l'adversaire démocrate du républicain. La mauvaise nouvelle pour les démocrates, c'est un, oui, c'est vrai, il semble que par dépit, les gens reviennent voir les démocrates. Ils gagnent par défaut. Mais ce qui est très inquiétant dans les sondages, c'est qu'il n'y a que 24% de la population américaine qui dit « les démocrates font un bon job ». Il n'y a que 28% des Américains qui disent « on a une opinion favorable du Parti démocrate » et ça baisse quand on leur demande « est-ce que vous les soutenez, est-ce qu'ils font un bon travail ?» C'est que 24%.
Ça veut dire que
les politiciens américains, en général, ne sont pas populaires, que les démocrates ne le sont pas et qu'ils ne soulèvent pas d'enthousiasme. Et ça, pour les élections, c'est important. L'enthousiasme, c'est ce qui fait sortir les gens. C'est ce qui a manqué à Kamala Harris dans la dernière élection. Donc, oui, les républicains et Donald Trump sont inquiets. Il y a fort à parier si la tendance se maintient, pour utiliser la vieille formule, qu'on perde des élections de mi-mandat. Mais pour 2028, les démocrates doivent continuer à réfléchir, puis réfléchir en accéléré, prendre les bouchées doubles, parce qu'on ne les aime pas.
Vas-y, Pascal.
Ça a changé beaucoup pour la présidentielle de Donald Trump. Ça a des impacts à travers le monde entier. Peut-être en terminant, puis en une minute, malheureusement, Luc, les élections en Hongrie, là, c'est partout. Tout le monde en parle. Ils l'analysent parce que ça change clairement aussi pour l'Europe, aussi pour les États-Unis, ce qui s'en vient.
Écoute, la première chose, très rapidement, moi, j'ai hâte de voir si Maillard, qui est le vainqueur hier, celui qui sort Orban, va-t-il aller de l'avant avec son désir d'éliminer les multiples réformes qu'avait fait Orban pour faire de la Hongrie un régime plus autoritaire? Donc, c'est ce qu'il a dit. Va-t-il le faire? Il a la majorité pour. Donc, en Europe, ça, c'est ce qu'on surveille. De l'autre côté, Donald Trump, J.D. Vance, les MAGA, les conservateurs américains qui invitaient Viktor Orban, là, ils viennent de recevoir un message. Même si vous avez essayé de jouer avec la mécanique de la machine pour vous maintenir au pouvoir, à un moment donné, il y a des lignes à ne pas franchir et on peut vous sortir. Et si on vient de sortir Orban, pas impossible qu'aux États-Unis, on fasse la même chose avec le groupe qui est au pouvoir présentement.
Luc Lalibertin, merci beaucoup. Je termine en te lisant un commentaire de Nadine, une auditrice fidèle. Merci à Luc Lalibertin pour ses explications toujours claires et détaillées. Je l'adore. Ben, nous autres aussi, on aime ça, j'ose avec toi, mon Luc.
Ben, écoute, salutations à Nadine. Merci beaucoup pour le commentaire. Puis salutations à tous les auditeurs, auditrices. Bonne fin de journée.
Merci, Luc. On se reparle. Car le conflit en Iran va continuer.
Ouais.
Et Donald Trump continue pour 3 ans.
Donc demain et après-demain.
Salut Luc, merci.
Bye-bye.
On va entrer dans quelque chose de plus positif après la pause, parce qu'après quelques manchettes, c'est le collègue Alex Laramé qui va venir s'installer avec nous. 100e point pour Nick Suzuki, 66e passe pour Lane Hudson, Cole Caulfield qui pourchasse Nathan MacKinnon pour le meilleur marqueur de la Ligue nationale et une victoire du Canadien de Montréal hier 4-1 pour éliminer les Islanders de New York. Bref, les amateurs de hockey, Pascal, en ont pour leur argent. Et on en parle à On en jase immédiatement après cette courte pause. On en jase.